Aristote, Politique, livre 6, chapitre 12. Sommaire. Du pouvoir exécutif ou de l'organisation des magistratures. Difficulté de cette question. Idée générale du magistrat. Son caractère distinctif. Différence des grands et des petits États. Dans les uns, on peut diviser les magistratures, dans les autres, il faut souvent les réunir en une seule main. Les magistratures varient avec les constitutions, combinaisons différentes suivant lesquelles on peut les établir, les électeurs, les éligibles, le mode de nomination, nuances diverses suivant les diverses constitutions. Paragraphe 1. La question qui suit celle de l'organisation de l'Assemblée générale, c'est la question de la répartition des magistratures. Ce second élément du gouvernement ne présente pas moins de variété que le premier, sous le rapport du nombre des pouvoirs, de leur étendue et de leur durée. Cette durée est tantôt de 6 mois, ou même moins longue, tantôt d'une année ou davantage. Les pouvoirs doivent-ils être conférés à vie et à longues échéances ou suivant un système différent? Faut-il qu'un même individu puisse en être revêtu à plusieurs reprises, ou bien seulement une fois, sans jamais pouvoir y aspirer une seconde? Paragraphe 2. Et quant à la composition même des magistratures, quels en seront les membres? Qui les nommera? Dans quelle forme les nommera-t-on? Il faut connaître toutes les solutions possibles de ces diverses questions et les appliquer ensuite selon le principe et l'utilité des différents gouvernements. Il est d'abord assez embarrassant de préciser ce qu'on doit entendre par magistrature. L'association politique exige bien des sortes de fonctionnaires, et l'on aurait tort de considérer comme de vrais magistrats tous ceux qui reçoivent quelque pouvoir, soit par l'élection, soit par la voie du sort. Les pontifes, par exemple, ne sont-ils pas tout autre chose que des magistrats politiques? Les corréges, les héros, les ambassadeurs, ne sont-ils pas aussi des fonctionnaires électifs? Paragraphe 3. Mais certaines charges sont toutes politiques et agissent dans un ordre spécial de fait ou sur le corps entier des citoyens. Le général, par exemple, commande à tous les membres de l'armée, ou bien sur une portion seulement de la cité. Telles sont les charges d'inspecteur des femmes ou des enfants. D'autres fonctions sont, on peut dire, d'économie publique. Par exemple, celles d'intendant des vivres qui sont aussi électives. D'autres, enfin, sont serviles, et on les confie à des esclaves quand l'État est assez riche pour les payer. D'une manière générale, les seules véritables magistratures sont les fonctions qui donnent le droit de délibérer sur certains objets, de décider et d'ordonner. J'appuie surtout sur cette dernière condition, car ordonner est le caractère réellement distinctif de l'autorité. Ceci, d'ailleurs, n'importe pour ainsi dire en rien dans l'usage ordinaire. On n'a jamais disputé sur la dénomination des magistrats, et c'est un point de controverse purement théorique. Paragraphe 4. Quelles sont les magistratures essentielles à l'existence de la cité? Quel en est le nombre? Quelles sont les magistratures qui, sans être indispensable, contribue cependant à une bonne organisation de l'État? Voilà des questions qu'on peut s'adresser à l'égard d'un état quelconque, quelque petit d'ailleurs qu'il puisse être. Dans les grands états, chaque magistrature peut et doit avoir des attributions qui lui sont toutes spéciales. La multitude des citoyens permet de multiplier les fonctionnaires. Dès lors, certains emplois ne sont obtenus par le même individu qu'à de longs intervalles, et quelques-uns ne le sont même jamais qu'une seule fois. On ne peut nier que chaque emploi ne soit bien mieux rempli quand la sollicitude du magistrat est ainsi limitée à un seul objet, au lieu de s'étendre à une foule d'objets divers. Paragraphe 5. Dans les petits états, au contraire, il faut concentrer bien des attributions diverses dans quelques mains. Les citoyens sont trop rares pour que le corps des magistrats puisse être nombreux. Où trouver en effet des remplaçants? Les petits états ont souvent besoin des mêmes magistrats, des mêmes lois que les grands. Seulement, dans les uns, les fonctions reviennent fréquemment aux mêmes mains. Dans les autres, cette nécessité ne se reproduit que de loin en loin. Mais rien n'empêche de confier à un même homme plusieurs fonctions à la fois, pourvu que ces fonctions ne se contrarient point entre elles. La pénurie des citoyens force nécessairement à multiplier les attributions des emplois. Et l'on peut alors comparer les emplois publics à ces instruments à plusieurs fins, qui servent en même temps de lance et de flambeau. Paragraphe 6. Nous pourrions d'abord déterminer le nombre des emplois indispensables dans tout état et de ceux qui, sans être aussi absolument nécessaires, lui font cependant besoin. Et partant de cette donnée, il serait facile de découvrir quels sont ceux que l'on peut réunir sans danger en une seule main. Il faudrait distinguer encore avec soin ceux dont un même magistrat peut être chargé suivant les localités et ceux qui pourraient être en tout lieu réunis sans inconvénient. Ainsi, en fait de police urbaine, est-il nécessaire d'établir un magistrat spécial pour la surveillance du marché public, un autre magistrat pour tel autre lieu? Ou bien, ne faut-il qu'un magistrat unique pour la cité entière? La division des attributions doit-elle se régler sur les choses ou sur les personnes? Je veux dire, faut-il qu'un fonctionnaire, par exemple, soit chargé de toute la police urbaine et un autre de la surveillance des femmes et des enfants? Paragraphe 7. En envisageant la question par rapport à la Constitution, on peut demander si, dans chaque système politique, l'espèce des fonctions est différente ou si elle reste partout identique. Ainsi, dans la démocratie, dans l'oligarchie, l'aristocratie, la monarchie, les hautes magistratures sont-elles les mêmes, bien qu'elles ne soient pas confiées à des individus égaux, ni même à des individus semblables? Mais ne varient-elles pas avec les divers gouvernements? Dans l'aristocratie, par exemple, ne sont-elles pas remises aux gens éclairés? Dans l'oligarchie, aux gens riches? Et dans la démocratie, aux hommes libres? Quelques-unes des magistratures ne doivent-elles pas être organisées sur ces bases diverses? Ou bien, n'est-il pas des cas où il est bon qu'elles soient les mêmes de part et d'autre? N'en est-il pas où il est bon qu'elles soient différentes? Ne convient-il pas qu'avec les mêmes attributions, leur pouvoir soit tantôt restreint, tantôt fort étendu? Paragraphe 8. Il est certain que quelques magistratures sont exclusivement spéciales à un système. Telle est celle des commissions préparatoires, si contraire à la démocratie qui exige un Sénat. Il n'est pas moins sûr qu'il faut des fonctionnaires analogues chargés de préparer les délibérations du peuple afin d'épargner son temps. Mais si ces fonctionnaires sont en petit nombre, l'institution est oligarchique. Et comme des commissaires ne peuvent jamais être fort nombreux, l'institution appartient essentiellement à l'oligarchie. Mais partout où il existe simultanément un comité et un sénat, le pouvoir des commissaires est toujours au-dessus de celui des sénateurs. Le sénat est de principe démocratique, le comité de principe oligarchique. Le pouvoir du sénat est encore annulé dans les démocraties où le peuple s'assemble en masse pour décider lui-même de toutes les affaires. Paragraphe 9. Le peuple prend ordinairement ce soin quand il est riche ou bien quand une indemnité rétribue sa présence à l'Assemblée générale. Alors, grâce au loisir dont il jouit, il se réunit fréquemment et juge de tout par lui-même. La pédonomie, la gynéconomie ou toute autre magistrature spécialement chargée de surveiller la conduite des enfants et des femmes est d'institution aristocratique et n'a rien de populaire. Comment, en effet, défendre aux femmes pauvres de se montrer hors de leur maison? Elle n'a rien non plus d'oligarchique, car comment empêcher le luxe des femmes dans l'oligarchie? Paragraphe 10. Du reste, je ne pousserai pas plus loin ces considérations, mais nous essayerons maintenant de traiter à fond de l'établissement des magistratures. Les différences ne peuvent porter que sur trois termes divers, dont les combinaisons doivent donner tous les modes possibles d'organisation. Ces trois termes sont d'abord les électeurs, en second lieu, les éligibles, enfin, le mode de nomination. Ces termes peuvent se présenter tous trois sous trois aspects différents. Le droit de nommer les magistrats appartient ou à l'universalité des citoyens ou seulement à une classe spéciale. L'éligibilité est ou le droit de tous ou un privilège attaché soit au sens, soit à la naissance, soit au mérite, soit à tel autre avantage. Par exemple, à Mégare, le droit était réservé à ceux qui avaient conspiré et combattu pour détruire la démocratie. Enfin, le mode de nomination peut varier du sort à l'élection. Paragraphe 11. D'autre part, il peut y avoir combinaison de ces modes deux à deux, et je veux dire par là que telles magistratures peuvent être nommées par une classe spéciale, en même temps que telles autres le seront par l'universalité des citoyens. Ou bien que l'éligibilité sera pour les unes un droit général, en même temps qu'elle sera un privilège pour certains autres. Ou enfin, celles-ci seront nommées au sort, celles-là par élection. Chacune de ces trois combinaisons peut offrir quatre modes. Premièrement, tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie de l'élection. Deuxièmement, tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie du sort. Troisièmement et quatrièmement, et l'éligibilité étant appliquée à tous les citoyens à la fois, ce peut être ou successivement par tribu, par canton, par fratrie, de manière que toutes les classes y passent à leur tour. Cinquième et sixièmement, ou bien l'éligibilité peut être toujours appliquée à tous les citoyens en masse. L'un de ces modes étant adopté pour certaines fonctions, l'autre mode l'étant pour quelques autres. D'autre part, le droit de nommer étant le privilège de quelques citoyens, les magistrats vont être pris. Septièmement, sur le corps entier des citoyens par la voie de l'élection. Huitièmement, sur le corps entier des citoyens par la voie du sort. Neuvièmement, sur une portion des citoyens par la voie de l'élection. Dixièmement, sur une portion des citoyens par la voie du sort. Onzièmement, on peut enfin nommer à certaines fonctions suivant la première forme. Douzièmement, à certaines autres suivant la seconde, c'est-à-dire appliquer au corps entier des citoyens le choix pour certaines fonctions, le sort pour certains autres. Voilà donc 12 modes d'établissement pour les magistratures, sans compter encore les combinaisons mi-parties. Paragraphe 12. De tous ces modes d'organisation, deux seulement sont démocratiques. C'est l'éligibilité à toutes les magistratures accordée à tous les citoyens, éligibilité au sort, éligibilité à l'élection, ou simultanément, telle fonction au sort, telle autre à l'élection. Si tous les citoyens sont appelés à nommer, non pas en masse, mais successivement, et que la nomination se fasse, soit sur l'universalité des citoyens, soit parmi quelques privilégiés, par le sort ou par l'élection, ou par ces deux voies en même temps, ou bien si telles magistratures sont prises sur la masse des citoyens et telles autres réservées à quelques classes spéciales, pourvu que ce soit par les deux modes à la fois, c'est-à-dire le sort pour les unes et le choix pour les autres. L'institution est républicaine. Si le droit de nomination dans l'universalité des citoyens appartient à quelques-uns seulement, et que les magistratures soient données les unes par le sort, les autres par l'élection, ou par ces deux voies réunies, le sort et l'élection, l'institution est oligarchique, mais le second mode l'est encore plus que le premier. Paragraphe 13. Si l'éligibilité appartient à tous pour certaines fonctions, et à quelques-uns seulement pour certaines autres, soit au sort, soit à l'élection, le système est républicain et aristocratique. La nomination et l'éligibilité réservée à une minorité constituent un système oligarchique s'il n'y a pas de réciprocité entre tous les citoyens, soit qu'on emploie le sort ou les deux modes simultanément. Mais si les privilèges nomment sur l'universalité des citoyens, le système n'est plus oligarchique. Le droit d'élection accordé à tous avec l'éligibilité à quelques-uns est un système aristocratique. Paragraphe 14. Tel est le nombre des combinaisons possibles suivant les espèces diverses des constitutions. On pourra voir aisément quel système il convient d'appliquer aux différents États, quel mode d'établissement il faut adopter pour les magistratures et quelles attributions il faut leur accorder. J'entends par attribution d'une magistrature, par exemple, qu'on charge celle-ci des revenus de l'État, celle-là de sa défense. Les attributions peuvent être fort variées, depuis le commandement des armées jusqu'à la relation relative au contrat passé sur le marché public.